Plus du champ. Là, ils sont en Mayenne, les autres.
Haneke.
Cimetière. Kerkhof. Boom. Boom. Is schrikbeeld. Hij leeft. Is niet enig ander. Is die daar. Wuivende zonder herkenning. Boom. Kent geen genegenheid. Kijk hem krachtig in gedaante. Zie daarachter al een schets van wat je later worden zal. Een ander, vreemd, dood ding.
Merci Yannick. Je rappelle que la traduction sera donnée à l'issue. Néanmoins, puisque ça fait deux ou trois poèmes que nous entendons lire de Yannick, nous avons reconnu le son boum.
L'arbre.
L'arbre. Vous voyez que dans certaines langues, l'arbre ne résonne pas de la même façon que dans la nôtre. Si je dis arbre, et si je dis boum, eh bien, on se rend compte que, par exemple, à Bercé répond mieux à boum qu'à arbre. Nous sommes ici au milieu d'un cimetière. Alors, il y a ici de nombreux cadavres d'arbres. Ce sont des troncs qui sont là, plus ou moins alignés. Il y en a même un tas là-bas. Alors, ce sont des chênes, il me semble.
Des chênes. Des chênes et des hêtres. Les deux.
Ah, il y a des
le hêtres aussi. Le temps est un tas de hêtres.
Ah oui, 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 là-bas, ce sont des hêtres. Alors, ma foi, nous allons parler... Avant d'embrasser ces cadavres, donc, des inscriptions qui se trouvent sur les troncs dans les forêts. Alors, par exemple, ici, approchons de ce noir. Vous voyez, ici, il y a un trait blanc, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trait blanc?
Alors, le trait blanc, c'est l'identification du cadavre. C'est pour nous un cadavre exquis.
Oui.
Qui va les cadavres d'arbres démarrent de nouvelles vies. Et celui-ci va démarrer une nouvelle vie dans une charpente de maison ou de château. C'est pour ça qu'il a été orné d'un trait blanc.
Bien. Mais avant d'être, on dit bien, abattu.
Abattu.
Eh bien, on lui a mis une marque à cet arbre pour dire que c'est celui-là qu'il faut abattre et pas un autre.
Voilà, on l'a
alors,
marqué.
Celle-là, qu'est-ce que c'est la marque?
Alors, les marques sont des traits rouges. Oblique de chaque côté du tronc,
oui.
Puisque c'est tant qu'il est debout, c'est encore un tronc.
Oui.
Maintenant qu'il est dans le cimetière, on appelle ça une grume.
Ah voilà, une grume.
Soyons
exacts,
soyons précis dans le vocabulaire. Oui. Et puis au pied, sur la racine, sur la souche qui est restée dans la forêt,
oui.
Une encoche, un blanchi jusqu'au bois sur lequel on a apposé le poinçon, le sceau du marteau de l'État, qui prouve bien que c'est bien nous qui avons décidé d'exploiter ce bois-là pour en vue de son utilisation, puisque le cimetière est un cimetière temporaire.
Oui, oui.
Quelques-uns finiront incinérés, d'autres utilisés.
Et certains en planches de cercueil.
Et certains en planches de cercueil.
Mais dites-moi, quelquefois on voit des marques blanches avec une petite marque oblique qui vient barrer la barre blanche.
Ah oui, ça c'est toute la codification de la gestion forestière. Pour s'y retrouver dans cette gigantesque ferme de 5400 hectares, par exemple, qui est Bercé, ben on a fait des parcelles. Mais faire un talus d'arbres dans le milieu d'une forêt, on aurait eu quelques soucis pour s'y retrouver. On a donc utilisé de la peinture. Le trait blanc avec le slash, comme vous l'appelez si bien, c'est la limite d'une parcelle forestière. C'est-à-dire que dans la parcelle, à l'intérieur de ces limites, on fera les mêmes travaux sur l'ensemble des arbres qui y sont. Ils ont vraisemblablement à peu près tous le même âge.
Ah, voilà. Et alors dites-moi, quand on tombe sur un arbre qui, lui, est cerclé de rouge.
Ah, cercle rouge ou cercle beige. On dit ventre de bichet, ça fait mieux que beige. Signe d'avenir. Il paraît que les arbres vivent plus longtemps que les humains, même plus longtemps que les forestiers, ce qui est fort difficile. Et ces arbres-là sont destinée à rester, à assurer la descendance du peuplement, donc à vivre ici jusqu'à au moins 180 ans pour le chêne. Ce qui fait qu'on les a cerclés parce que les forestiers, quelques-uns d'entre eux, auront passé dans la vie de ces grands chênes, d'autres sont encore là, et on se transmet le savoir en disant voilà, celui-là, c'est celui qu'on a décidé de garder, c'est le chêne qui assurera la descendance des chênes de la parcelle.
Ah oui, parce que donc, quand on découvre en forêt, par exemple ici à Bercé, soudainement une immense clairière, ça veut dire que les arbres ont tous été abattus, mais il en reste là quelques-uns un peu tristes et tout ça. Alors ce sont ceux-là.
Ce que vous appelez clairière avec des arbres tristes, c'est la façon dont on est en train de repasser de la vieille forêt à la jeune forêt.
Voilà, oui.
Dans la clairière où il n'y a plus d'arbres, où on pense qu'il n'y a plus d'arbres, encore une automobile, l'intrusion de l'automobile en forêt est désastreuse, mais fournit du carbone à manger à nos arbres. La clairière en question est remplie de milliers et de millions de petits chênes. Mais on ne les voit pas, puisqu'ils sont tout petits. Donc les rares qui restent, les gros qui sont au-dessus, sont les parents. Ils sont ceux qui ont fabriqué la descendance. Quand il n'y en a plus de gros, il y en a des milliers de petits. Et la forêt est totalement générée. Jamais la clairière n'est vide de chênes. Évidemment, s'y installe bien d'autres choses que les chênes. Mais elle n'est jamais vide de chênes.
Et alors comment vous faites le tri ensuite? Parce que donc vous laissez repartir en fait.
Tout repart.
Voilà. Tout repart. Il y a du boulot, il y a du houx, voilà. il y a un peu de tout.
Il y a du houx, s'installe du boulot, du châtaignier quelquefois. Et la compétition se fait jour entre les chênes, entre le boulot, entre le châtaignier. Donc on regarde pendant un long moment la façon dont ça se passe, en protégeant quand même un peu les chênes de façon à ce que le but, la culture... La sylviculture ici, c'est celle du chêne. Donc il faut bien qu'on en produise pour faire en mettre dans le cimetière comme ici pour qu'il devienne un jour charpente ou tonneau pour le vin. Donc on accompagne ce que la nature fait en dégageant tranquillement et les arbres s'arrangent entre eux. Naturellement, vous laissez une pelouse se reboiser. Et elle se reboisera, même si vous n'avez pas d'arbre à proximité. Tout d'un coup viendra un chêne transporté par un jet. Un boulot, et ce qu'on appelle les arbres pionniers s'installent et se débrouillent entre eux. Combat de la lumière, les uns poussant avec beaucoup de lumière, d'autres moins, poussant sous les autres et petit à petit regagnant la place perdue et éliminant les autres, la nature. Le combat dans la nature est exceptionnellement rude.
Mais vous donnez un coup de main tout de même, parce que par exemple ici, on voit bien qu'il y a du chêne et du hêtre, et on est presque à se demander quelquefois si ça n'a pas été un peu organisé, quoi. Moi, je me suis laissé dire que l'espèce de cousinage qu'il y avait dans ces forêts de hêtres et de chênes, c'était pour permettre aux chênes de pousser bien droit. C'est vrai ça?
Cousinage très organisé, puisque le but, c'est quand même ici, on est à la mort du mythe de la forêt sauvage. Le paysage qu'on a autour de nous est aussi artificiel que celui des tours de la défense, totalement façonné par l'homme dans un but précis, faire pousser du chêne. Le hêtre est là en auxiliaire sylvicole. Effectivement, il va pousser le chêne en hauteur et gainer son tronc pour éviter qu'il ait des branches basses pour faire du bois de qualité. Donc ça, c'est voulu, c'est un acte sylvicole précis, mais qui est fondé sur une observation de la nature. On a regardé comment la nature se débrouillait. Tout à l'heure, on a croisé des trognes, l'homme s'en est occupé d'une autre façon. Dans la forêt, on laisse la nature, on accompagne la nature, on lui demande de nous aider. Je ne vois pas du tout monter à l'échelle, faire de l'élagage naturel, surnaturel dirons-nous, sur des grands troncs de chêne à 40 mètres de hauteur.
Et dites-moi, qu'est-ce que deviendrait une forêt qu'on laisserait pour les uns à l'abandon et pour les autres libre?
Ça, c'est un grand fantasme de forestier. Que deviendrait-elle? Elle resterait forêt. Je suis allé voir des forêts en Pologne, dites forêts primaires. Et en y allant, alors, comme tout bon forestier qui se respecte, il est tombé devant un foutoir considérable. Eh bien non, ce sont des dizaines de petites forêts juxtaposées, auprès les unes des autres, avec des arbres de toute taille, depuis d'énormes choses auprès desquelles ceux d'ici sont très très petits, jusqu'à des arbres nouveau-nés, par petits morceaux, petites places d'un demi-hectare, d'un hectare. La forêt se régénère seule et se débrouille bien tout seul. Elle n'a pas du tout besoin des forestiers pour se développer. Et par contre, on ne peut pas lui demander non plus de nous fournir le bois d'œuvre, le bois de travail dont on a besoin. Au moins, elle le fournira en beaucoup moins grande quantité. Mais on peut très bien, certains s'amusent à l'heure actuelle à essayer d'imiter cette culture, cette sylviculture, hein, l'organisation ProSilva expérimente des formes de gestion qui sont très proches de ces gestions naturelles de la forêt.
Et dites-moi, est-ce que les Polonais font comme les Néerlandais et certains Français, est-ce qu'ils embrassent leurs arbres ?
Bon, ben, j'en suis persuadé. Pour avoir passé deux journées entières avec des gens dans cette forêt primaire, je peux vous garantir que oui.
Arbre, image de la peur. Lui vit. Il n'est pas seul autre. Est cela. Saluant sans réponse. L'arbre ne connaît nulle inclination. Vois-le fort dans sa forme, et là-dessous l'esquisse. De ce que plus tard tu deviendras, une chose autre, étrangère. Thank you.